Ce matin, je vais commencer par vous raconter une histoire vraie. On est à la fin du XVIIIe siècle, précisément en 1794, et pour remettre les choses dans leur contexte, à cette époque-là, en ce temps-là, il y avait seulement un très petit nombre de personnes qui savaient lire. L'histoire que j'aimerais vous raconter ce matin, c'est l'histoire de Mary Jones. Mary Jones. Peut-être ce nom vous évoque quelque chose. Une petite fille de 10 ans qui vivait dans une campagne du Pays de Galles avec ses parents. Et chaque semaine, la famille Jones se rendait à la chapelle du village pour adorer Dieu. Et c'est là que Mary entend avec émerveillement le pasteur lire la Bible. Et elle se met alors à rêver de pouvoir lire la Bible elle-même, et elle se met à prier Dieu. « Seigneur, aide-moi à apprendre à lire, pour que je puisse découvrir par moi-même ce qui est enseigné dans ce livre merveilleux. » Malheureusement, il n'y avait pas d'école dans le village de la famille Jones. Personne qui pouvait l'aider à apprendre à lire. Et peu de temps après, hasard, une école s'ouvre dans le village voisin, à quelques 6 kilomètres de là où Mary habite. Pour Mary, c'est une réponse à sa prière. Et c'est alors qu'elle se lève tôt chaque matin et marche jusqu'au village voisin, parfois même pieds nus, et même quand la météo est capricieuse. Et la voilà à l'école pour apprendre à lire. La lecture acquise, elle se demande où elle va bien pouvoir trouver une Bible. Et il y a un voisin qui en possède une dans la langue du pays, donc en gallois, et qui lui permet de venir chaque samedi pendant environ 1 heure pour qu'elle lise la Bible. Alors elle en profite, mais elle aimerait pouvoir la lire tous les jours, pas seulement le samedi. Alors elle commence à économiser de l'argent. Elle emploie tout son temps libre pour rendre des petits services aux gens de son village. Elle va se mettre à coudre. Elle va élever des poulets pour en vendre ensuite les œufs au marché, ramasser du bois mort pour ses voisins, et puis tout un tas d'autres petites choses encore, et tout ce travail pendant pas moins de 6 années. Son instituteur lui apprend alors qu'elle peut acheter une Bible chez un pasteur, le pasteur Charles, mais il habite à Bala, une ville qui est à 40 kilomètres. Cela n'arrête pas Marie. Elle se met en route un matin, très tôt, et elle arrive en toute fin de journée dans cette ville de Bala. Elle est accueillie chez la famille Edwards, qui la loge pour la nuit. Et le lendemain, M. Edwards la conduit chez le pasteur Charles. M. Charles la reçoit avec bienveillance et il écoute avec une attention toute particulière l'histoire de Marie. « Vous savez, dit-elle, j'ai tellement aimé la Bible dès la première fois que je l'ai entendue. J'étais toute petite. J'ai appris à lire à l'âge de 10 ans et j'en ai 16 aujourd'hui. Et maintenant, j'aimerais avoir ma propre Bible pour la lire. » Alors, le pasteur n'en revenait pas. « Tu es en train de me dire que tu as fait 40 kilomètres à pied pour acheter une Bible ?»« Oui, monsieur. » Et j'ai même l'argent nécessaire pour cela. Mais, jeune fille, comment as-tu pu réunir assez d'argent pour acheter une Bible? Parce que, si j'ai bien compris ton histoire, tes parents sont une très modeste famille de tisserands. Oh, mais vous savez, j'ai travaillé pendant 6 ans et j'ai rendu des services aux gens de mon village et finalement j'ai réussi à rassembler toute une somme d'argent. Et Mary est là et se met à serrer dans ses bras la bourse remplie de ses précieux sous. Alors, le pasteur Charles se tourne vers M. Edwards et lui dit « Monsieur Edwards, Je suis malheureux de voir cette jeune fille si intelligente et si vraie dans sa foi. Elle a fait tout ce chemin à pied pour acheter une Bible, mais je n'en ai aucune en réserve, pas même une seule. Et la société de distribution de livres refuse d'imprimer de nouvelles Bibles en gallois. En entendant ces paroles, Mary est bouleversée. Elle se met à éclater en sanglots à la pensée qu'elle va devoir rentrer chez elle bredouille. Elle avait tant espéré, tant travaillé. Mais le pasteur Charles, ému de compassion, pose sa main sur la tête de Mary et lui dit « Mary, tu auras ta Bible. L'une des Bibles commandées est pour quelqu'un qui sait aussi lire l'anglais. Je vais lui vendre une Bible en anglais et je vais lui donner celle qu'il avait commandée en gallois. Je vais te donner à toi, elle est pour toi. » Alors Mary retrouve le sourire en voyant le pasteur se diriger vers une étagère, saisir cette fameuse Bible en gallois et la lui tendre. Elle est alors submergée de joie et d'émotion. Il se trouve que cette Bible coûte le double de la valeur des économies de Mary. Mais ça n'empêchera pas le pasteur de la laisser repartir avec cette Bible. Et c'est ainsi que Mary Jones repart avec sa Bible et peut la lire tous les jours. C'est une histoire que vous pouvez retrouver dans ce petit livre ici, un tout petit livre qui est fait pour les enfants, mais pour aussi les grands également. Et c'est une histoire vraie, bien sûr, mais c'est une histoire qui, peut-être on n'y pense pas, mais elle a bouleversé le pasteur Charles, et à tel point qu'il est allé la raconter aux membres de la Société de littérature religieuse pour leur soumettre l'idée de créer une nouvelle société qui imprimerait des Bibles en gallois. Et parmi les auditeurs qui étaient là, il y en a un qui est touché par l'expérience de Mary Jones et qui déclare « Très certainement, une société peut être mise en place pour cela. Mais si nous le faisons pour le pays de Galles, pourquoi est-ce que nous ne le ferions pas pour toute la Grande-Bretagne ? Et finalement, pourquoi ne pas le faire pour le monde entier ?» Et en fait, sans le savoir, Mary Jones, par sa foi et par son amour pour la Bible, allait être à l'origine d'un mouvement qui ne s'est jamais arrêté depuis maintenant plus de 2 siècles. Ce mouvement qui consiste à rendre la parole de Dieu accessible au plus grand nombre de personnes dans le monde. Et le résultat de cet élan, c'est qu'aujourd'hui, la Bible est traduite dans un nombre toujours plus grand de langues, pas loin de 3000, en entier parfois, ou pour des dialectes, seulement des petites portions de la Bible, ou du Nouveau Testament, ou même juste un évangile. Et elle demeure le livre le plus imprimé dans le monde, avec plus de 2 milliards d'exemplaires depuis l'imprimerie de Gutenberg au milieu du XVe siècle. Pourquoi Mary Jones voulait-elle tant désirer lire la Bible elle-même et tous les jours? Pourquoi la Bible est-elle si importante, si centrale pour nous, pour notre foi en tant que chrétiens? Et j'aimerais répondre à cette question en 5 points. Premièrement, la Bible est la parole de Dieu. Je ne la prends à personne, mais quand on lit la Bible, on est frappé par le nombre de fois où on peut lire « Ainsi parle le Seigneur ». Oracle du Seigneur, sans compter toutes les fois où on dit, où on lit « Dieu dit », etc., etc. L'apôtre Paul, dans la deuxième lettre qu'il écrit à Timothée, dit ceci, chapitre 3, verset 16, « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu ». Je m'arrête là pour la lecture de ce verset. « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu ». Cela veut dire que l'Écriture, la Bible, vient de Dieu. C'est Dieu qui en est à l'origine. Toutes les paroles de la Bible sont des paroles de Dieu. Et j'aimerais vous interpeller chacun, chacune. Est-ce que vous prenez conscience, ne serait-ce que quelques secondes, quand vous prenez votre Bible dans les mains, que vous l'ouvrez, ou même sur votre smartphone, que ce que vous tenez là, c'est la parole de Dieu. Est-ce que nous en prenons vraiment conscience ? La Bible, ce n'est pas une revue mensuelle à laquelle on peut s'abonner à temps et temps. Ce n'est pas un très bon roman comme on peut en lire pendant toute la période estivale, pendant nos vacances, etc. Non. La Bible est la parole inspirée de Dieu, qui nous vient de Dieu. Et Mary Jones avait compris que la Bible est un livre spécial. Parce que quand on lit la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Notre Dieu est vivant, et parce qu'il est vivant, ses paroles sont vivantes aussi. On peut dire, et la Bible elle-même le dit, qu'elle est la parole vivante de Dieu, la voix de Dieu qui nous parvient aujourd'hui encore. Elle vient, Dieu vient jusqu'à nous par sa parole. Dieu est le vrai Dieu, l'unique, et par conséquent, sa parole est la vérité. Alors la prochaine fois que vous allez ouvrir la parole de Dieu, c'est-à-dire bientôt, prenez conscience tout à nouveau que ce que vous tenez entre les mains, c'est la parole de Dieu. Non seulement elle est la parole de Dieu, mais cette parole, elle est centrée sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus est le point focal de toute la Bible. Chaque texte de la Bible converge d'une manière ou d'une autre vers Jésus-Christ. Soit il s'agit d'un texte prophétique qui va annoncer ce que Jésus va faire, ou qui va être Jésus, ce qu'il va accomplir, ou bien c'est un texte qui nous prépare en vue de Jésus. Soit c'est une réflexion au sujet de Jésus, sa personne ou son œuvre, ou bien c'est peut-être une conséquence de la venue de Jésus et de ce qu'il a accompli pour nous. Et c'est pertinent de se poser la question, quand nous ouvrons la Bible, qu'est-ce que j'apprends par le texte que je viens de lire sur la personne de Jésus, sur son œuvre, sur ce qu'il a accompli ? Qu'est-ce que j'apprends ? Même quand on est dans l'Ancien Testament. Parce qu'on peut avoir tendance à penser que Jésus, il arrive finalement au début du Nouveau Testament. Mais même l'Ancien Testament pointe vers la personne et l'œuvre de Jésus. Tout l'Ancien Testament. Combien de textes des psaumes, des prophètes, ou même de la loi de Moïse, donc des textes de l'Ancien Testament, sont repris dans le Nouveau Testament pour évoquer la personne ou l'œuvre de Jésus. La Bible, Nouveau et Ancien Testament, est la parole de Dieu. Elle est centrée, comme je l'ai mis ici, sur la personne de Jésus, au point que l'on puisse dire que Jésus est la parole de Dieu faite chair. Chaque partie de la Bible annonce ou rappelle la personne ou l'œuvre de Jésus. Deuxièmement, parce que la Bible est la parole de Dieu, elle est donc normative pour nous, pour le croyant, pour les chrétiens que nous sommes. Et là, je vous invite à nous interroger, à nous questionner, chacun, chacune. Quel est votre rapport à l'autorité de la parole de Dieu. Est-ce que la Bible est la norme pour votre vie? Si elle est la norme, c'est qu'elle fait autorité. Est-ce qu'il y a une vérité de la Bible à laquelle vous avez difficulté à croire, ou même à laquelle vous refusez de croire? Est-ce qu'il y a un commandement, une exhortation pratique, éthique, que vous ne voulez pas mettre en pratique dans votre vie, de manière délibérée? On peut être là chaque dimanche à l'église, aller dans des rencontres de quartier, servir dans l'église de diverses manières. On peut même connaître des doctrines de la foi chrétienne et pourtant, paradoxalement, refuser de mettre en pratique quelque chose que l'on sait pourtant être la vérité. Quelque chose que l'on sait que Dieu nous demande de faire et qu'on s'obstine à faire. Je repense à une personne il y a bien des années en arrière avec qui j'avais une discussion au sujet du pardon. Et cette personne de me dire, mais attends, la Bible, le Seigneur me demande de pardonner à cette personne-là, après tout ce qu'elle m'a dit et ce qu'elle m'a fait, eh bien, je ne suis pas d'accord. Et puis le dimanche suivant, cette personne est là, à l'église. Elle chante avec les autres frères et sœurs. Elle participe au Seigneur, tout comme l'autre personne qui lui a fait du mal. Comme si de rien n'était. Le chrétien ne peut pas se comporter ainsi. Rejeter tout ou partie de la Bible nous montre que c'est comme rejeter Christ lui-même. Étant donné que toutes les paroles de la Bible sont des paroles de Dieu, cela implique rejeter une parole ou désobéir à une parole de l'Écriture, c'est comme rejeter et désobéir à Dieu lui-même. Regardez ce que nous lisons dans ce passage où Jésus envoie ses disciples en mission et leur dit « Si quelqu'un vous écoute, c'est moi qui l'écoute. Si quelqu'un vous rejette, c'est moi qui le rejette. Or, celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Si quelqu'un vous écoute, dit Jésus, autrement dit, si quelqu'un écoute les paroles que moi, Jésus, je vous donne de transmettre, vous en êtes les porteurs, vous, eh bien, c'est comme s'il me rejette, moi, et rejette mon Père qui m'a envoyé. Par contre, s'il écoute, il m'accueille, il me fait alors bon accueil. Est-ce que la Bible, est-ce que la parole de Dieu fait autorité dans notre vie? Il nous faut intégrer pleinement cela au plus profond de notre être, dans notre cœur, de manière à ce que, lorsqu'on va lire la Bible, on puisse se remettre en question, on puisse s'ouvrir à ce que le Seigneur veut nous dire. Et c'est la raison pour laquelle j'encourage toujours, et je ne pense pas vous l'apprendre ce matin, de ce que quand on lit la Bible, de prier avant de lire. On ne lit pas un roman, on ne lit pas une revue, on lit la parole de Dieu. Prions que le Seigneur ouvre notre cœur. Seigneur, je m'apprête à lire ta parole. Elle fait autorité dans ma vie. Elle est la norme pour ma vie. Aide-moi à accueillir ta volonté pour ma vie. Aide-moi à me conformer à ce que tu attends de moi, même s'il m'en coûte. La Bible est donc normative pour nous. C'était le deuxième point. Troisièmement, la Bible est nécessaire. Elle est nécessaire pourquoi ? Eh bien, déjà, sans la Bible, on ne peut pas connaître Jésus-Christ. On ne peut pas accéder au salut. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans Romains, chapitre 10, versets 13 et 14. « Tous ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui ? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu ? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer ?» Comment croiront-ils s'ils n'ont pas accès au message de l'Évangile ? L'accès au message de l'Évangile, il se fait de bien des manières différentes. La traduction, la diffusion de la Bible, comme on en parlait tout à l'heure avec ces sociétés bibliques et missionnaires qui travaillent depuis 2 siècles maintenant. La prédication de la Bible, le témoignage personnel. La musique, le chant, l'art. Mais dans tous les cas, quel que soit le canal utilisé, le moyen utilisé, c'est le même message qui est véhiculé. Et c'est la raison pour laquelle il y a toutes ces sociétés bibliques, missionnaires, qui s'efforcent de rendre la Bible accessible dans un nombre de langues toujours de plus en plus grand pour diffuser à un nombre toujours plus grand de personnes le message que la Bible contient. Parce que précisément, la Bible est le moyen par lequel on connaît le message du salut, on connaît Jésus-Christ et celui qui l'a envoyé. Et on veut que chacun y ait accès. Traduire la Bible, c'est en quelque sorte sauver. Si on ne la traduit pas, on ne la rend pas accessible dans la langue de notre auditeur. Traduire la Bible pour que des personnes puissent lire son message dans leur propre langue, pour qu'elles connaissent Jésus-Christ, pour qu'elles soient sauvées, pour qu'elles croient, comme dit l'apôtre Paul dans ce texte. La Bible est donc nécessaire pour connaître le message du salut, mais ça ne s'arrête pas là. Une fois qu'on est sauvé, on a encore besoin de la Bible. Elle est encore nécessaire pour mener une vie selon la justice, pour nourrir notre vie spirituelle par sa lecture régulière, pour connaître la volonté de Dieu, ses lois, ses commandements, ses instructions. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans la suite du verset, on a lu tout à l'heure le début de ce texte, lisons la suite. « Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. » La Bible nous permet de franchir le pas suivant dans notre marche avec Dieu pour réformer notre vie toujours plus à ce que Dieu attend de nous. Est-ce que je prends conscience de mon besoin de la Bible ? Est-ce que je prends conscience que la Bible est nécessaire pour mon quotidien, pour mon ravitaillement quotidien sur le plan spirituel ? J'aimerais prendre une illustration. Si vous êtes en ce moment, les après-midi, sur les chaînes de France Télévisions, vous voyez le Tour de France. Eh bien, les cyclistes, les coureurs du Tour de France, s'ils ne se ravitaillent pas au fur et à mesure de l'étape, ils ne vont pas aller au bout de l'étape. Hein. Ou alors, ils vont arriver, mais alors, bien après les autres, qui, eux, se seront ravitaillés. J'y vais même aller un peu plus loin dans l'illustration. Les coureurs, quand ils commencent la course, ils sont déjà remplis d'énergie qui est prête à être dépensée. Ils n'attendent pas le premier ravitaillement dans l'étape pour se ravitailler. Ils démarrent en ayant fait le plein d'énergie. J'entendais encore ce matin aux informations les quantités astronomiques que les coureurs ingurgitent quotidiennement avant l'étape, pendant l'étape, après l'étape. Eh bien, de la même manière, si nous allons dans nos journées, dans nos étapes de vie, sans nous nourrir, sans nous ravitailler spirituellement, nous allons avancer. Mais qu'est-ce qui va nous nourrir ? Qu'est-ce qui va nous aider à trouver les bons conseils, les bons critères, à faire les bons choix dans notre vie ? Où est-ce que nous allons trouver le carburant pour avancer dans cette vie dans laquelle nous sommes, qui a aussi son lot de difficultés et d'épreuves ? Et on pourrait donner d'autres questions encore comme ça pour nous interpeller. Est-ce que nous nous ravitaillons ? Et alors moi j'aime bien militer pour le ravitaillement du matin. Du matin. Très tôt le matin. Peut-être parce que j'ai été formaté comme ça, mes parents c'était le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Alors j'ai grandi avec ça. Et aujourd'hui encore, s'il y a un repas que je ne peux pas ne pas prendre, c'est le petit déjeuner. Parfois même, je disais encore à quelqu'un avant le début du culte, mon petit déjeuner ce matin, il est tellement loin que j'en prends un petit deuxième là juste avant le début du culte, sinon je ne vais pas tenir jusqu'à midi. Eh bien, ce temps du matin, ce temps qu'on peut avoir avec Dieu, il est tout particulièrement important aussi. Ce moment où la journée n'a pas encore vraiment démarré, ou tout juste. Ce moment où il n'y a pas encore toutes les distractions que l'on peut connaître dans notre journée. Ce moment qui n'appartient quelque part qu'à nous et à ce temps qu'on peut avoir avec le Seigneur. Non pas qu'on ne peut pas l'avoir plus tard dans la journée. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais le matin, c'est un moment tout spécial qu'on peut avoir avec le Seigneur. Et ce matin, quand je suis arrivé dans les locaux, j'ai marché là, dans la salle, il n'y avait encore personne, j'étais tout seul, j'étais tranquille, tout était ouvert parce que ça ventilait, et j'ai prié. J'ai eu un moment avec le Seigneur, et ça fait du bien. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour connaître le message du salut et pour mener une vie conforme à ce qui est juste. Quatrièmement, la Bible est suffisante. C'est l'apôtre Paul qui le dit encore dans le texte que nous avons lu tout à l'heure et dans la suite. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, redresser et apprendre à redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. La Bible contient tout ce dont nous avons besoin pour être sauvés, on l'a vu, pour faire confiance à Dieu, pour alimenter, nourrir notre foi, pour lui obéir, pour faire les bons choix, prendre les bonnes orientations dans notre vie, pour résister aussi aux tentations de l'ennemi. Et rien que ça, on peut penser à Jésus dans le désert. On voit la pleine suffisance de la parole de Dieu pour Jésus quand il a été tenté par le diable dans le désert, Matthieu chapitre 4 par exemple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas demandé un pouvoir surnaturel, et pourtant il aurait pu. Il n'a pas demandé une intervention spéciale de Dieu, et pourtant il aurait pu. Non, il a uniquement cité trois textes de l'Écriture, des textes du Deutéronome, et avec ça, il a repoussé l'ennemi et ses tentations. L'Écriture est suffisante pour notre foi, pour notre vie, pourvu qu'on n'y ajoute rien ou qu'on n'en retranche rien. Il n'y a rien à ajouter aux paroles de la Bible. Il ne faut pas attendre de nouvelles révélations. Dieu a clos sa révélation par l'Écriture avec le dernier apôtre, qui est l'apôtre Jean, et le dernier livre qu'il a écrit, le livre de l'Apocalypse. Depuis bientôt 2000 ans, il n'y a plus de révélation de Dieu, hormis ce qu'il a déjà fait connaître avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui se termine avec l'Apocalypse. Et d'ailleurs, ce livre de l'Apocalypse se termine de la manière suivante. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Il n'y a donc rien à ajouter, rien à retrancher non plus. Et ne rien retrancher, c'est donc aussi veiller à lire la Bible dans son entier. Parce que ne pas lire la Bible dans son entier, d'une certaine manière, ce serait une forme peut-être inconsciente, involontaire, mais pourtant bien réelle de retrancher à la parole de Dieu, en ne lisant toujours que les mêmes textes, et de ne pas aller vers les textes que peut-être on n'a jamais lus. Je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà lu la Bible entièrement ? Nous avons eu 4 baptêmes le mois passé, et si vous vous souvenez des témoignages, vous serez frappé de voir l'impact de la parole de Dieu dans la vie de ces 4 personnes. Il n'y aurait pas eu la parole de Dieu, il n'aurait pas été là pour témoigner. Est-ce que vous savez dire de quoi parle le livre d'Esdras ? Le deuxième livre des Chroniques. Allez, peut-être un peu plus facile pour ceux qui étaient dans les rencontres de quartier cette année. Le prophète Agé ou le prophète Miché, on en a parlé. Même le livre de l'Exode. Souvent l'Exode, on connaît bien jusqu'au chapitre 20. L'esclavage, les plaies d'Égypte, la sortie d'Égypte. Ça va. La traversée de la mer, ça va. L'arrivée au mont Sinaï, le don de la loi et des 10 commandements, ça va. Chapitre 21, ah là c'est plus dur. Jusqu'au chapitre 40. Est-ce que vous savez dire, et je passe volontairement dans le Nouveau Testament, de quoi parle l'apôtre Paul dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens ? Ou l'apôtre Jean dans sa deuxième lettre, un chapitre. La troisième lettre, un chapitre aussi. De quoi parle Paul dans la lettre à Tite, trois petits chapitres. Jude. Ah, j'ai prêché sur Jude au mois de janvier dernier. Vous pouvez la réécouter sur le site internet. La Bible est pleinement suffisante. Encore faut-il ne rien y ajouter, mais ne rien y retrancher non plus. Lisons-la régulièrement, relisons-la. Je ne sais pas de quoi sera fait la suite de votre été. Nous sommes que le 13 juillet. Il reste encore un bon mois et demi, mais je vous invite à profiter de ce temps estival pour faire quelques excursions dans la parole de Dieu, pour découvrir des passages que peut-être vous n'avez jamais lus, ou des passages que vous des livres que vous n'avez pas lus depuis longtemps. Allez-y, n'ayez pas peur de sortir des sentiers battus et d'aller noircir la tranche de pages qui sont encore toutes blanches. La Bible est pleinement suffisante pour notre vie. Cinquième et dernièrement, la Bible est à mettre en pratique. Dieu se sert de la Bible pour nous transformer, mais pour cela, il faut encore la mettre en pratique. Il faut mettre en pratique ce que Jésus enseigne dans sa parole. Jacques dit ceci, « Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter. Traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. » Traduire en acte. Ce qui nous fait grandir, ce qui nous transforme, ce n'est pas la lecture en elle-même de la parole de Dieu, mais c'est la volonté conjointe à la lecture de se laisser toucher, de se laisser interpeller, de se laisser remettre en question par ce que la Bible dit, en vue de mettre en pratique cela dans notre vie. C'est comme pour apprendre à conduire une voiture. Ça commence avec le code de la route. Mais je ne connais encore personne qui a le permis de conduire uniquement avec le code de la route. Ça passe aussi par la pratique. Faut pratiquer. Il faut le code et la pratique derrière. Vous connaissez quelqu'un qui a appris à nager rien qu'en regardant des vidéos de Léon Marchand sur Internet, sans jamais se jeter à l'eau? Peut-être Paul, notre nageur. C'était une petite boutade. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est une petite référence au week-end d'église qui nous a tous très ferrés. Merci encore, Paul. Eh bien, c'est pareil avec la Bible. Si on lit la Bible, mais qu'on ne la met pas en pratique ensuite, ça ne sert pas à grand-chose. On revient à ces questions qui sont pourtant si centrales dans notre vie. Est-ce que la Bible fait autorité dans ma vie? Est-ce que je prends conscience qu'elle est nécessaire pour moi, pour que je mène une vie qui plaît au Seigneur, pour répondre aux questions que je me pose? La Bible, il nous faut la traduire en actes. Et les sociétés bibliques et missionnaires que j'évoque depuis tout à l'heure traduisent la Bible dans notre langue pour qu'on ait accès au message du salut, pour qu'on soit sauvé, et pour que, in fine, nous la traduisions en actes dans notre vie. Alors, pourquoi la Bible est-elle si importante, si centrale pour notre foi chrétienne, pour notre marche avec le Seigneur? Tout est là, parce que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle est centrée sur Jésus, parce qu'elle est normative pour notre vie, parce qu'elle est nécessaire pour mener une vie qui plaît au Seigneur, parce qu'elle est suffisante, elle contient tout ce dont il y a besoin pour notre vie, parce qu'il nous faut, in fine, la traduire en acte. Quand j'étais plus jeune, mes parents tenaient à ce que le matin je prenne un bon verre de jus de fruits, c'était souvent un jus d'orange, et puis aussi j'avais le droit tous les matins à ma petite pastille de vitamines. Ces petites pastilles, vous savez, dans des tubes cylindriques, là, et puis tous les jours, j'avais cette petite pastille, là. J'aimais bien, ça sentait bon, c'était bon dans la bouche. C'était censé donner des vitamines pour la journée. Quelles vitamines vous prenez en début de journée? Peut-être encore aujourd'hui, c'est possible. Il y a plein de vitamines différentes. La vitamine C, la vitamine D, la vitamine E, la vitamine K1, K2, la vitamine B1, B2, B3. Vous pourrez vérifier, hein, elles existent. B5, B6, B9, il y a même la B12. Mais est-ce que vous connaissez la vitamine B, tout court? La vitamine B. Faites une recherche sur un moteur de recherche, vous verrez, ça va vous renvoyer vers toute la famille des vitamines B1, B2 jusqu'à B12. Et moi, je vais vous parler de cette vitamine-là, la vitamine B. Celle-ci, ne vous en privez pas. Prenez-la dès le matin, dès le réveil, dès le petit déjeuner. Faites le plein de cette vitamine B. Aujourd'hui, nous ne sommes plus au temps de Mary Jones où les Bibles se faisaient rares, où il fallait beaucoup d'argent pour en avoir une. Et puis, on n'avait pas le choix de la traduction, ni même de la couverture, de la couleur, de la taille. Aujourd'hui, 200 ans après, les temps ont bien changé. Il existe une multitude de Bibles dans des traductions différentes, dans des formats différents, dans des éditions différentes, etc., etc. Alors ne nous en privons pas. À l'exemple de Mary Jones, est-ce que chacun, chacune repart avec sa Bible ce matin? Je veux dire par là, est-ce que chacun, chacune a sa Bible avec la volonté de la lire et de la lire tous les jours? Faites le plein de vitamine B. Amen.